Star Wars en direct. Vous est présenté en collaboration avec Mintinbox.net, Cyclon.net et StarWars-Holonet.com.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What a strong this one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored.
Donc bienvenue pour la 17e fois à Star Wars en Génération Star Wars, 17e fois comme 7e édition. Nous sommes ensemble pour parler d'un événement très particulier qui a lieu à QC, donc QC Vite Thermal. C'est une trombe d'eau que nous sommes accueillis mes charmants représentants aujourd'hui. Un petit tour de table, une charmante demoiselle à ma gauche, un charmant monsieur à ma droite.
Donc moi c'est Alexane, je m'appelle Ewan sur Star Wars de Net, sur lequel je travaille en tant que rédactrice actualité depuis 6 ans.
6 ans déjà.
Oui, 6 ans déjà. Ouais.
Donc on a dit pas de ride, tout va bien, toujours aussi charmante.
Voilà.
Le jeune homme.
Et donc moi je suis Jérémy, alias Bobby One sur Star Wars Universe. Je suis staffeur en charge de la communication et de la communauté et j'ai rejoint le staff en 2010.
D'accord. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour évoquer quelque chose de relativement simple. Il semblerait qu'il y a un événement particulier qui se passe au mois de décembre, vers le 18 décembre, d'accord. La sortie d'un nouveau opus, le 7e, je crois.
Le 7e, oui.
Voilà. Où il y a des batailles de sabre laser, des vieux qui reviennent, c'est ça?
Ouais,
c'est ça,
des
voilà.
Des jeunes qui arrivent.
Des jeunes qui arrivent, voilà, c'est ça.
Surtout.
C'est un renouvellement de génération, d'accord.
Voilà.
Alors, dites-nous un peu plus ce que vous avez mis en place pour cet événement un peu particulier.
Alors, on a annoncé à QC en exclusivité le samedi 2 mai le lancement du Réveil des fans. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2002 et 2005, pour les épisodes 2 et 3, avait été organisé une attaque des fans qui avait rassemblé différents sites Star Wars francophones. Donc là, nouvelle édition, enfin, nouveau film et nouvelle édition. Donc là, vu que le titre du film, c'est Le Réveil de la Force, on a pensé que Le Réveil des fans était plus approprié. Donc l'objectif est très simple, c'est d'abord rassembler 13 sites francophones pour organiser et relayer les informations sur Le Réveil des fans. Et c'est essentiellement rassembler les fans pour la projection de l'épisode 7 dans les cinémas, autour d'animations, de places de cinéma à des prix réduits, des combats au sabre laser, des invités, des conférences, des goodies, voilà, un peu tout. Et donc il y aura des grands événements organisés dans des cinémas prestigieux un peu partout dans ces pays, et aussi surtout la possibilité pour les fans d'organiser leur propre réveil des fans grâce à un site internet, donc qui a été lancé le 4 mai. Avec une plateforme, voilà, et qui facilite le rassemblement des fans dans tous ces pays.
D'accord, donc c'est-à-dire que c'est une plateforme informatique. On donnera le lien à la fin de l'émission, qui permettra à toutes les personnes de pouvoir savoir s'il y a possibilité d'avoir un lieu de rencontre sur leur ville ou organiser un lieu. C'est ça, un événement, pardon.
C'est exactement ça, voilà. C'est juste pour centraliser en fait tous les événements et que les gens n'aient pas besoin d'aller chercher un petit peu à droite, à gauche pour savoir alors est-ce qu'il se passe quelque chose dans ma ville. Là vraiment on dirait que tout le monde, donc la plus grosse partie passe par ce site pour que justement ça facilite les échanges et que la communauté puisse s'organiser correctement le mieux possible.
Alors quand on parle de communauté, c'est un exemple assez frappant, c'est que c'est l'ensemble des sites, on est bien d'accord, il n'y a pas un site plus que l'autre, c'est vraiment tous les sites de collectionneurs ou de fans de Star Wars qui sont unis dans un même et même lieu pour pouvoir communiquer sur cet événement où chaque site fera l'écho de ce qui se passe régulièrement. C'est bien aussi un moyen de montrer, on va dire, malgré tout, qu'on puisse se retrouver autour d'un thème fédérateur qui est Star Wars actuellement. On est bien d'accord.
Voilà, c'est ça. C'est pas juste, on fait partie de tel site. C'est vraiment Star Wars en général. Et c'est pour ça qu'il y a même d'ailleurs pas que des sites internet. On a aussi des pages Facebook qui nous ont contactés.
D'accord.
Qui font un petit peu d'actualité dessus ou voilà, des petites informations sur l'univers de Star Wars toujours.
Mmh.
Qui nous ont contactés en nous disant, on aimerait bien vous aider, faire un petit peu de publicité pour vous. Donc c'est vraiment, vraiment un gros truc rassembleur. C'est
pas... D'accord. Donc différents endroits pour se réunir, pour faire des événements. D'accord. Une plateforme sur laquelle on peut s'enregistrer et voir les endroits où se situe l'animation. Et si on crée un événement, on peut contacter la plateforme, créer son événement, c'est ça ?
C'est bien ça.
D'accord. D'accord.
Ouais.
On peut s'inscrire directement sur le site du Réveil des Fans,
d'accord.
En créant son profil, ou on peut aussi s'inscrire via Facebook, pour ceux qui ont un profil Facebook.
D'accord.
Et donc c'est vraiment très simple. Et puis après, soit on rejoint un événement qui existe, soit on crée son propre événement. Et s'il y a des doublons, nous, voilà, l'équipe du Réveil des Fans, on va regarder un petit peu tout ça pour éviter justement qu'il y ait plusieurs événements dans une même ville et rassembler les fans au sein d'un même événement.
D'accord. Donc voilà pour l'événement Le Réveil des Fans. Alors maintenant, je vais poser les questions pièges. Donc je vois
voilà.
Que mes...
On s'en va.
Ils s'en vont tous à toutes. Alors la question piège du jour, c'est pourquoi QC ?
Pourquoi QC ?
En quelques mots.
Tout simplement parce que QC, ça se passe juste avant, je pense, hein, le 4 mai. Et le 4 mai étant quand même la date, le Star Wars Day, en fait. C'est une date importante. Du coup, les héritiers nous ont proposé très gentiment un petit créneau horaire hier pour pouvoir justement en parler un peu plus. Et donc, en parler directement avec les gens en face, quoi. Et pas juste lancer notre petite ruche dans notre coin, quelque part. Être présent en vrai, quoi. Que les gens...
Et aussi, QC, c'est la convention Star Wars en France. Donc, pour nous,
ouais,
dans l'équipe du Réveil des Fans, c'était vraiment une évidence de venir annoncer en exclusivité l'événement ici à QC.
Bah, je vous remercie.
Merci.
À toi. À très bientôt.
Ouais.
À bientôt. Ouais. On va changer de personnalité, on va changer de personnage aussi. Alors, je dirais qu'on va taper dans du lourd parce que 1m90 de muscles, d'accord. C'est ça.
Non,
d'accord.
Surtout, on a un invité particulier.
On a un invité particulier aujourd'hui.
C'est l'exclu Disney Store.
Alors, vous demandez qui est ce charmant jeune homme qui parle. Alors, viens nous rejoindre à l'instant, Pierre. Pierre du site Meeting Box, président légitime et président. Au grand président, d'accord, une tape sur l'épaule de Meeting Box, qui va nous parler un peu d'une avant-première qui nous fait partager à Star Wars en direct et en direct de QC aussi. Il est venu donc accompagné d'un charmant personnage. Je te laisse le présenter.
Oui, donc tout le monde le connaît, c'est Yoda, célèbre maître et sage Jedi. Une exclu Disney Store que Disney nous a fait parvenir avec un Yoda animé. Au niveau du visage, c'est assez bluffant. La figurine est capable de prononcer une vingtaine de phrases. C'est assez bluffant d'ailleurs, on va en lancer
une. On va en faire une petite démonstration. Alors moi je suis à côté, je peux vous dire ce qui est impressionnant surtout, c'est l'animatique. C'est-à-dire que le personnage qui est en face de moi, qui doit être à peu près la hauteur d'une bouteille de Coca-Cola, c'est-à-dire un peu plus grande, a les yeux qui bougent, elle est mimique, qui est vraiment comme si c'était un personnage dans la tête qui était animé, vraiment impressionnant.
C'est carrément l'arrivée des animatroniques à la maison.
Exactement, c'est vraiment l'animatronique, c'est impressionnant. Alors, vous avez le son, moi j'ai l'image et je peux vous dire, je vais regretter de ne pas avoir ce que je vois devant mes yeux qui est vraiment impressionnant. C'est un latex, c'est ça ?
Oui, je pense que c'est en latex,
le
visage est en latex,
ouais.
C'est impressionnant. La figurine sera disponible au prix de 35€ pour l'Europe, en tout cas dans les Disney Store. C'est sûr que ça séduira non seulement les collectionneurs, mais surtout les enfants qui vont vraiment s'éclater avec cette magnifique figurine. Donc ça, c'était pour la partie un peu promo, mais disons que c'était assez exceptionnel de pouvoir disposer de cette figurine la veille de May the Force, la journée Star Wars. Donc c'était formidable que Disney puisse nous faire parvenir cette figurine.
Alors, on va parler d'une chose un peu plus particulière. Donc, je profite que j'ai Pierre à côté de moi et j'ai mon ami Paul qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est en train de faire des échanges, qu'en fait, c'est la bourse des échanges en même temps. En fait, la question qu'on se posait dans le cas de Star Wars, c'est, alors ça, je demande l'avis d'un grand collectionneur aussi, c'est est-ce que tu penses que l'afflux de prodeurs avec l'arrivée de l'épisode 7 risque d'être avant tout un peu problématique, parce que c'est plus la même licence, c'est-à-dire que c'est Disney, est-ce qu'on va pas tomber dans du jouet pur et dur pour enfants, ou est-ce qu'on va regarder une partie un peu collection avec des produits assez particuliers ?
Bah, disons que l'avenir le dira, dans le sens où l'arrivée de l'épisode 1 avait un peu mobilisé les foules. On se souvient encore des reportages TV où on voyait des gens dormir devant des magasins de jouets pour acheter des figurines. Alors, l'épisode 1 a quand même marqué le trop-plein du produit dérivé, puisqu'on pouvait tous décliner en produits dérivés, de l'assiette de pique-nique à la tête d'oreiller.
Ouais, je me souviens à l'époque, à l'époque des produits-là, je me souviens que les commerciaux passaient aussi bien chez le boucher que chez le boulanger, pouvant des porte-clés Star Wars. Et les porte-clés Star Wars, on en trouvait partout, dans l'effigie de Jajar et compagnie. C'était quelque chose d'assez problématique à l'époque.
Alors justement, c'est là où va devoir se faire la ligne de démarcation entre le produit de consommation, le jouet standard, on va dire, et l'objet de collection. Effectivement, j'espère qu'on va pas se retrouver dans le trop-plein de l'épisode 1, parce que on a bien vu que même si ça a généré beaucoup d'argent, ça a quand même pas mal freiné les fans dans les achats dans des épisodes qui ont suivi, du moins dans leur appétit. J'aurais tendance à dire attendons de voir. J'espère que les lignes marketing s'adressent non seulement aux produits de consommation, jouets, produits dérivés immédiats, usage immédiat pour les enfants, et le produit un peu plus haut de gamme pour les collectionneurs. Donc c'est vrai que on va faire confiance aux équipes de Disney, aux équipes de Lucasfilm et l'expérience dont ils jouissent depuis ces 35 dernières années. Pour pouvoir nous procurer le meilleur et optimiser surtout leurs ventes, hein, parce que c'est quand même ça ce qui compte. C'est quand même ce qui compte.
Mais dans l'univers de Disney, donc on parle de Disney là, c'est vrai que Disney, quand on fait les magasins Disney, il y a vraiment deux gammes de produits. Il y a les produits dits classiques, qui est au bon enfant, qui peut plaire à tous les enfants, le gobelet, choses comme ça. Et sur une gamme un peu plus supérieure, un peu plus élite, on a d'autres produits beaucoup plus travaillés. Quand on va dans les magasins Disney, dans la première avenue, on va dire, on voit bien qu'il y a des produits de consommation courante avec des prix d'appel, et on a toujours du produit un peu plus travaillé, un peu plus haut de gamme. C'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est est-ce qu'on va rester dans l'univers Star Wars, parce que c'est vrai que quand on voit Disney, Star Wars, Disney a modifié des personnages en faisant un crossover entre des personnages de Disney et des personnages de Star Wars. Est-ce que c'est dérangeant pour un collectionneur, ce genre d'événement, ce genre de croisement?
À partir du moment où ça reste mesuré, j'ai pour exemple la gamme Cars Disney, qui est quand même assez bien foutu.
Je crois qu'il y a deux collectionneurs l'un à l'autre de Cars Disney, d'accord.
Exactement. Ouais. Non, c'était un croisement intéressant entre les deux gammes. Après, il ne faut pas que ça dégénère. Ouais, voilà. Il ne faut pas que ça dérive vers le tout croisement. Voilà. Ouais, j'espère qu'on verra jamais du Marvel Star Wars, mais bon. Peut-être que pour une gamme bien précise, ça peut être un produit exclusif ou par exemple, hein, maintenant, encore une fois, tout viendra de la démarcation des différentes gammes à vendre. L'avenir nous dira si l'arrivée de Disney aura mis de l'ordre dans ce qui sera proposé au consommateur final, le collectionneur ou le monsieur tout le monde, on va dire. Voilà. Ce que j'espère, effectivement, je le répète, c'est ne pas se retrouver dans l'overdose épisode 1.
Ouais, c'est vrai que l'épisode 1 a été une overdose. Pour donner une idée, je me souviens qu'à l'époque, il y avait, c'est là que tu as sorti le premier vaisseau de la reine, qui était un produit grande distribution à un prix quand même assez impressionnant. Je crois que c'était 1000 francs.
Oui, francs, je crois. Entre 800 et 1000 francs.
Entre 800 et 1000 francs, d'accord. Le seul avantage qu'il y avait, c'était récupérer le petit robot rouge à l'intérieur, c'est ça, qui était intéressant. Toi qui collectionnes, quels seraient les conseils que tu dirais ou tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une collection, les pièges à éviter, quels sont les premiers mots, les premières choses de ton expérience de collectionneur qui fait que tu dis tiens, j'aurais pas fait comme ça avec du recul, si je pouvais aider quelqu'un à se lancer, voilà vers quoi j'irais ou lui dirais évite ça, fais plutôt ça.
Non, je pense qu'il faut surtout éviter la tendance complétiste, c'est-à-dire de vouloir tout posséder. Alors que ce soit dans la gamme figurine par exemple, ou dans la gamme buste, dans la gamme statue, etc. Je pense que il faut surtout recentrer la collection sur la notion de plaisir, et le plaisir ne vient pas de la possession de tout ce qui peut sortir. Je pense qu'il faut vraiment fonctionner au coup de cœur, et une collection hétéroclite vaut autant, si ce n'est plus, qu'une collection complétiste, où on est embringué dans un cycle infernal d'achat qui ne correspond ni à aucun plaisir ni à aucune logique. Je pense que la notion de plaisir, de faire un, d'avoir des coups de cœur, de sélectionner ses produits est la meilleure chose. Parce que l'intérêt d'une collection, et c'est ce qu'on peut voir notamment si vous avez l'opportunité d'aller aux États-Unis lors de la visite du Rancho Obi-Wan, qui est un musée dirigé par Steve Sansweet, c'est que chaque objet a son histoire.
Ouais.
Chaque objet apparaît dans une collection avec une histoire. Mmh. Et finalement, ce qui paraît le plus important, c'est pas le fait de posséder l'objet, c'est de connaître l'histoire.
Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est dans tes propos, je t'écoute et je bois tes paroles, mais alors que moi, je suis à l'opposé. C'est que moi, je suis plus dans une série, je vais jusqu'au bout de la série. Et c'est vrai que le cœur fait que des fois, je fais un petit aparté, et de plus en plus, avec du recul, j'achète plus dans l'idée de compléter une gamme ou d'aller à fond dans une gamme, c'est vraiment le coup de cœur, parce que c'est vrai qu'il y a pléthore de produits, le cœur parle beaucoup plus. Alors comme on dit, quand on parlait de cars sont des petites voitures, mais l'idée, l'originalité de ce produit fait qu'on a envie de... Il y a une petite sensibilité, puis ça reste un jouet, c'est un jouet au sens large du terme, c'est des petites voitures, quoi. Donc ça reste quand même des choses, mais c'est vrai que c'est bien le problème de tous les collectionneurs actuellement, c'est... On trouve de plus en plus de personnes qui sont dans une gamme. Il y a des pros Boba Fett, il y a des pros Dark Vador, il y a des pros comme ça. Et c'est vrai qu'on en oublie un peu la totalité des produits, le plaisir qu'on a à les posséder ou à les chercher. Et c'est vrai qu'on l'oublie un peu.
Voilà. Et ce qu'il faut aussi rappeler, hein, ce qui limite le collectionneur, c'est aussi son espace de stockage.
Ouais. Alors ça, là, on fera une émission spéciale stockage, parce qu'on l'évoquait alors hier soir en catimini, on mangeait ensemble, là. Hier soir, et on parlait du stockage des jouets. C'est vrai que, donc je crois que c'est le spécialiste des Protect Case, c'est ça. Voilà. En fait, il faut savoir que, on a évoqué dans une émission passée que tous mes blisters sont des emballages plastiques protégés en rigide, d'accord. Et on s'imagine pas du nombre, de la place que ça prend, on est bien d'accord.
Exactement.
Non seulement ça prend de la place, mais on les présente pas, on les stocke.
Exactement.
On est bien d'accord.
Exactement.
Donc je pense que c'est un trouble qu'on devra peut-être réfléchir en collectif.
Oui,
sur,
tout à fait. Et puis je reviens sur la notion de plaisir. Ce qui est intéressant dans la collection, c'est la recherche du produit qu'on n'a pas.
Ouais.
Si c'est pour se rendre dans un magasin, mettre 120€ à la caisse pour avoir une dizaine de blisters, bon, ça peut être intéressant pour un plaisir immédiat, mais ce qui est intéressant, c'est de cibler ses pièces, de prendre le temps de les rechercher, voilà. De faire des rencontres. Rencontrer collectionneurs, je veux dire, il n'y a pas plus intéressant.
Pas plus.
Et c'est ça qu'on retiendra, c'est la petite histoire qui est derrière chaque produit. N'oublions pas que derrière la collection, il y a surtout des individus. Et ces individus ont des anecdotes absolument incroyables à partager. Je pense que faire de la collection un alibi pour partager avec d'autres,
ouais.
Je pense que c'est l'aboutissement de tout fan.
En fait, dans ces propos, et je remercie énormément, c'est que ce qu'il faut voir à travers l'univers Star Wars et la collection, ce que j'évoque souvent au bout de 20 ans, même 25 ans de collection, c'est un endroit que j'ai dû connaître Pierre déjà, de connaître des sites, de connaître des gens, qu'ils soient anglais, allemands, ou c'est cela. Alors, on parle toujours du barrière de la langue. Sachez que le plus néophyte en langage on va dire germano, c'est moi, à part dire boucard, c'est le seul mot que je sais dire, alcool aussi, d'accord. Et pour vous dire, c'est que à travers chaque jouet, à part dire chaque produit, si je ne pas comprendre aux gens, c'est que l'échange qu'on a aujourd'hui avec Pierre, l'échange qu'on va avoir tout à l'heure avec la salle, c'est ce qui est vraiment la valeur ajoutée du produit. Parce que le produit en lui-même, il est inerte, d'accord. Alors que discuter avec un collectionneur, rencontrer des gens qui viennent d'Australie, imaginez-vous, quoi, des quelques personnes qui traversent tout le sang pour parler d'une passion commune, ensemble, d'un petit produit qui s'appelle Star Wars, un petit personnage, sans entrer dans des extrêmes. Alors, je parle d'extrêmes, je prends un exemple tout simple. Quand on avait été à Essen, en Allemagne, il y avait une vente prodeur en bas, il y avait des prodeurs à 50 000€, à Yoda, je crois, ou je sais plus quoi. Il y avait des moules, justement, il y avait des gens qui avaient des moules, des figurines. Mais avant tout, c'était l'échange, la discussion, la passion, raconter l'histoire, comment on a pu voir le produit, comment on a rencontré des gens aussi. Et rencontrer des gens, ça veut dire aussi, par exemple, quand je vais dans une ville, il y a un collectionneur avec qui je peux discuter, pas de Star Wars, mais manger en chambre, échanger. Parce que tout ce qui tourne autour de l'environnement du produit, on est d'accord, il y a Internet, il y a Skype, il y a tous ces choses-là, donc là, on peut échanger. Un événement comme Génération Star Wars, là, la 17e édition, pour nous, au-delà de l'aspect de l'émission aujourd'hui, c'est se rencontrer, de discuter,
exactement,
de préparer l'avenir.
Donc l'avenir pour nous, c'est...
L'avenir pour nous, c'est Célébration
3.
Europe 3.
C'est une longue organisation.
Organisation à Londres.
À venir, exactement. Ouais. On va profiter du fait d'être en Europe pour rameuter le plus de Français possible.
Ouais.
Pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, de nouveaux partages. Parce que c'est finalement ce qu'on retient de ces grandes conventions.
Ouais,
alors c'est vrai que la télé française nous a un peu montré... la convention américaine Célébration Anaheim où effectivement on parlait plus de chiffres, de nombre de personnes.
Oui.
Mais ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est l'intensité de ce qui s'y produit, le fun, le rassemblement familial autour d'une même passion commune. Et je pense que c'est finalement ce qui fait que les gens font des kilomètres. Les gens ne se déplacent pas pour forcément aller voir un panel d'un acteur ou d'un réalisateur. Effectivement, c'est une motivation supplémentaire. Mais ce qui motive les gens, c'est de pouvoir partager, d'échanger, d'avoir des souvenirs. Alors surtout à l'époque où les réseaux sociaux fonctionnent à plein régime, c'est sûr que ça fait partie de l'essentiel de la motivation. Voilà.
Alors, vient d'arriver une charmante demoiselle. Ah non, c'est Paul, pardon, Paul.
Bonjour à tous.
Donc Paul est quelqu'un d'assez particulier, rempli de gentillesse, qui va nous parler d'un événement relativement simple, d'accord ? Qui va nous parler, raconte tout ce que tu as fait. Tu as fait quoi il y a 15 jours ?
Donc tout d'abord, bonjour à tous, auditeurs français, auditeurs québécois, belges, enfin tous. Vous m'avez sûrement entendu il y a 15 jours sur Star Wars en direct à Anaheim, en Californie, pour Star Wars Célébration. J'étais avec Sébastien... où on a échangé en direct donc nos impressions sur les différents événements avec en point d'orgue la projection de la deuxième bande-annonce de The Force Awakens qui nous a tous émus.
Alors au-delà de l'émotion, en fait on va parler des choses que personne ne sait parce qu'on a évoqué ça hier soir. Comment ça se passe avant d'aller à ce genre d'événement ? À quoi tout les heures d'attente, grosso modo ?
Alors pour assister au main event, alors c'est... Le premier qui arrivera dans la file, en fait, chacun se veille et voit quand la file commence. Donc à partir du moment où on a vu qu'une petite file à l'extérieur commençait, nous on s'est glissé. Donc on a pu être dans les 200 premiers à rentrer dans cette salle. 200 premiers sur 7000 personnes qui ont attendu une bonne partie de la nuit, voire pour nous donc une quinzaine d'heures pour assister à cette projection.
Donc on est bien d'accord que vous avez entendu 15 heures dehors.
Alors, à 6 heures
à l'intérieur
de 1 minute 50.
Voilà. Donc 15 heures d'attente pour 1 minute 50. Et l'émotion ?
À son maximum. Avec son maximum, avec des cris, des embrassades, tout le monde a trouvé ça fantastique lors de la première projection. Je sais que moi, maintenant, à chaque fois que je vois la bande-annonce, je l'ai vu passer hier pour la première journée de Génération Star Wars. Et à chaque fois, ça fait des émotions, enfin des frissons de revoir la bande-annonce passer.
Alors, quel conseil tu donnerais pour ceux qui veulent participer ou aller sur des événements ?
Sans m'avancer, je pense qu'à Londres, en 2016, on parlera beaucoup de Rogue One, le premier spin-off. Et c'est pas impossible qu'il y ait la même chose avec la bande-annonce donc de Rogue One. Après, est-ce que ça suscitera le même engouement qu'un nouvel épisode que les gens attendent depuis maintenant une dizaine d'années ? Je sais pas, après au niveau européen, là-bas c'est les États-Unis, les Américains sont fervents de ce genre d'événement, ils font la queue devant les cinémas la veille de la sortie. Pendant qu'on y était, il y avait la première d'Avenger, il y avait des gens qui avaient dormi la nuit devant les cinémas d'Hollywood Boulevard pour Avenger 2. Donc voilà, c'est aussi une tradition chez eux de faire ce genre d'événement.
Alors,
on va voir chez nous si ça fonctionne.
Alors je vais faire comme tout bon journaliste des chaînes françaises, il y avait du monde.
Alors en effet, vous nous avez peut-être entendu à la radio française, RTL ou France Inter pour ne pas les citer, et oui, il y avait beaucoup de monde. Juste pour le main event, il y avait plus de 7000 personnes dans la partie principale, et sinon dans toute célébration, il y avait 65 000 personnes annoncées officiellement.
Alors 65 000 personnes, il faut s'imaginer que sa population... De Vichy plus Vichy, c'est ça grosso modo.
C'est grosso modo ça. Donc 65 000 personnes, étant donné qu'ils attendaient entre 40 et 45 000, ça a formé de longues files d'attente malheureusement. Et il fallait parfois, par exemple, on pouvait assister à rentrer dans une salle où il y avait les props de The Force Awakens, les premières armures, les premiers costumes, les premiers vaisseaux. Il fallait attendre 4h30 pour rentrer dans cette salle.
Waouh.
Bon, j'ai eu la chance d'attendre 20 minutes.
Ah.
Mais voilà, ça, il fallait plusieurs heures pour acheter des exclus, celles qui partaient pas dans les 45 premières minutes de la journée et qui après étaient plus disponibles. C'était un peu la folie, il fallait sélectionner ce qu'on voulait faire.
Donc en fait,
c'est le petit point négatif de cet événement.
Ouais, ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a bien sûr différentes animations sur le même lieu, d'accord. Il y a aussi une boutique officielle, sachant que la boutique officielle, il y a à peu près 8 heures de queue, et au bout de 45 minutes d'ouverture, il n'y avait plus rien, c'est ça?
Alors la boutique officielle, moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller le mercredi soir, donc j'ai pu avoir les choses que je désirais en tant qu'exposant. Par contre, j'ai des amis là-bas qui sont rentrés à 10h le matin et sortis à 14h.
Voilà.
Voilà. Ça occupe la moitié de la journée juste pour acheter les produits officiels de célébration. C'est vrai que c'est un peu frustrant.
C'est ça.
Ouais. Moi, comme je dis, j'ai la chance de ne pas avoir ce problème-là, mais ouais, c'est un peu frustrant. Quoi.
Ouais. Sinon, pour l'Europe, partant.
Bien sûr, partant avec toute l'équipe de Mintinbox, bien entendu. On en parlait encore hier soir. Donc c'est, je peux pas dire à 100%, donc on n'a pas eu l'approbation qu'on sera là-bas, mais enfin j'espère que vous nous retrouverez là-bas, et puis avec quelques cadeaux à vous distribuer. Encore une fois, on essaye de toujours faire au mieux et pour satisfaire les gens, et cette fois-ci déjà à Anaheim ça a fonctionné avec une série de cartes dessinées par notre ami Sébastien.
C'était 5 cartes, c'est ça?
4 cartes. 4 cartes qui, une fois assemblées, formaient une fresque en fait.
D'accord, il y avait Dark Vador, il y avait.
Le Stormtrooper, Boba Fett et le Snowtrooper.
D'accord, les 4 assemblées faisaient une grande affiche.
Une grande fresque, voilà.
D'accord.
Et j'étais content parce que beaucoup ont réussi à rassembler les 4 sur place.
Bon, ouais. Sinon, ils peuvent l'acheter sur eBay à combien, je crois? On a regardé ça, on faisait.
Ah, on l'a vu à plus de 100 euros.
À plus de 100 euros, voilà.
Ça fout un peu les boules parce qu'on se dit que des gens sur place auraient peut-être mérité de l'avoir, et puis elle est déjà en vente. Après, c'est le jeu. Hein.
Alors, je suis riche avec tout ce que tu m'as donné.
On peut commencer une vente aux enchères.
Ouais, on donne une vente aux enchères des produits spéciales célébration. D'accord.
Non, un très grand événement, et en 2016, alors moi des réactions que j'ai pu lire sur les différents forums, etc., beaucoup étaient frustrés que ce ne soit pas à Paris.
Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est posé?
Encore une fois, je voudrais juste donner mon avis là-dessus. Moi, je pense qu'en France, on n'a pas l'infrastructure pour accueillir ce genre de manifestation. Tout simplement parce qu'il faut un emplacement qui regroupe trois choses. Un centre de convention très grand, des hôtels à proximité de ce centre de convention, c'est-à-dire il faut que les gens puissent se déplacer à pied, et des attractions extérieures. Alors à Anaheim, on parle du parc de Disney et des alentours, c'était de même pour Orlando, en fait, c'était une zone entourée d'hôtels et de parcs d'attractions. Certains ont dit à Essen, il n'y avait rien, à Essen, il y avait un grand parc juste à côté, puis c'était à côté de Legoland aussi, on prenait le bus, on pouvait aller à Legoland. Donc voilà. Malheureusement, à Paris, alors tout le monde me dit oui, Porte de Versailles, il y a des hôtels, oui, il y a des hôtels parisiens, ça coûte très cher.
Ouais.
C'est pas du tout les mêmes. Les mêmes complexes hôteliers de milliers de chambres et voilà.
Ce qu'il faut voir, c'est pour ceux qui ont été à Essen et pour ceux qui iront à Londres, les complexes hôteliers sont vraiment, vraiment à côté. Et puis quand on dit hôtelier, il y a aussi bien du super haut de gamme, comme l'accessibilité, puis ça, grand nombre de chambres, ils ont l'habitude de gérer ça. C'est des grands complexes hôteliers qu'il y a à proximité, qu'on n'a malheureusement pas.
Donc en attendant que ça arrive en France, il faut que tout soit à portée en fait.
Voilà.
Un emplacement où on trouve tout.
Les trois ingrédients quoi.
Les trois ingrédients rassemblés. Ouais. Donc peut-être un jour, peut-être à QC, d'ailleurs, on sait jamais. Célébration QC, ça sonne pas mal.
Ouais, faut pas exagérer non plus. J'espère qu'il n'y a pas de Vichy dans la salle, mais c'est une ville d'eau, je vous le confirme.
Donc soyez pas déçus que ce soit à Londres. Londres est très accessible et ça va encore être une vie supérieure.
Ouais, moi, pour avoir fait Londres et Essen, j'ai gardé un très bon souvenir de Londres parce que c'était le premier, mais surtout l'infrastructure était vraiment très 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 adaptée. Paul, je te remercie bons événements, ces bonnes informations.
Une nouvelle fois.
Ouais. Donc ça fait quoi de parler avec le décalage horaire maintenant parce que t'es en France?
Alors le décalage horaire va beaucoup mieux. Cette semaine, ça a été difficile.
Ouais. Et puis, un petit coup de dieu avant de partir.
Voilà.
Et ben, je vous remercie tout le monde. Bon, Dany, bonne chance pour le montage, d'accord? Donc, j'ai eu des gros problèmes techniques, mais on fera ensemble de pouvoir tout résoudre ça pour la prochaine fois. Mais j'étais content de participer et on fera encore mieux, déjà mieux pour la prochaine fois. Merci, à bientôt. À bientôt, tout le monde.